RTL Info.
Le journal Audrey Mondy.
Bonsoir. Le centre de traçage du coronavirus tourne à plein régime dans le canton de Neuchâtel. Les enquêteurs se chargent de contacter les gens pour leur annoncer le résultat de leurs tests, des coups de fil durant lesquels il faut faire preuve de beaucoup d'humanité et de psychologie. Le chapeau de Napoléon a été racheté par une entreprise horlogère du Val de Travers. Le bâtiment qui domine Fleury ne sera donc plus accessible aux vallonniers ainsi qu'aux touristes. Timothy Cast est de retour au HCC. L'ancien top scorer du club chaudefonnier a été engagé en licence B pour une durée indéterminée. Il sera sur la glace des Mélèzes ce soir lors de la venue de Langenthal. Des nuages de plus en plus épais arrivent ce soir. Demain, des averses sont prévues dès l'après-midi. Le chiffre n'avait encore jamais été atteint depuis le début de la pandémie de coronavirus. La Suisse a enregistré aujourd'hui 2823 nouveaux cas d'infection. 8 décès sont à déplorer et 57 malades ont été hospitalisés, annonce l'Office fédéral de la santé publique. Face à cette recrudescence, certains cantons prennent des nouvelles mesures. À Genève, les manifestations privées sont désormais limitées à 100 personnes. Le canton de Zurich impose quant à lui le port du masque dans les bars et les clubs. Et le canton de Neuchâtel ne fait pas exception à la règle. Cette hausse des cas engendre une saturation de la hotline et du centre de traçage. Des enquêteurs sont chargés de contacter les personnes qui ont été testées au coronavirus. Des annonces qui sont très mal vécues par certains. Sarah Massy, vous êtes allée dans ce centre de traçage cet après-midi.
Oui, je m'attendais à me retrouver dans une salle pleine de personnes pendues au téléphone dans un grand stress. Ce qui n'était pas le cas, en fait, j'ai rencontré deux personnes qui répondaient à la hotline et qui n'avaient pas une minute de répit entre chaque coup de fil. Des questions sur pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas reçu mon test ? Ou est-ce que je peux me rendre ce soir à un match de foot en dépit que j'ai été avec un ami qui a été testé au Covid-19 ? Le centre de traçage s'occupe également de contacter les gens qui ont été testés positifs au coronavirus. Mais les enquêteurs ne travaillent pour la plupart pas au service de la santé où j'étais. Ils sont basés à la Ligue pulmonaire neuchâteloise et certains travaillent à domicile. Le nombre de cas, vous l'avez dit, ne cesse d'augmenter. Alors, dans ces conditions, est-ce que le traçage peut encore être assuré ? Question posée à Claude-François Robert, médecin cantonal.
On est sans arrêt à la limite, puis on travaille pour renforcer justement les équipes. Nous, on a besoin de personnes qui restent longtemps, qu'on peut former. Pour nous, la solution de l'armée ou de la protection civile, c'est des gens qui restent une semaine, c'est pas tellement intéressant de les former.
Est-ce que le traçage, il est encore assuré aujourd'hui ? Pour combien de temps ? Est-ce qu'on peut avoir une idée ?
Disons, toute personne qu'on isole, c'est une personne qui ne va plus contaminer. Si on met des gens en quarantaine, peut-être qu'on va éviter des cas. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer jusqu'au bout. Maintenant, on n'est pas dans une zone où on fait un travail, je dirais, confortable dans les délais idéaux. Mais il faut qu'on continue de travailler à faire du traçage parce que ça va ralentir le développement de l'épidémie.
Cette saturation du centre de traçage ne permet plus aux enquêteurs de contacter toutes les personnes qui ont été en contact rapproché avec quelqu'un testé positif. Noémie Gisberg est étudiante en 5e année de médecine et elle travaille au centre de traçage.
C'est vrai que là, depuis quelques semaines où les cas augmentent énormément, on a des situations où les laboratoires annoncent avant nous les résultats. Du coup, la personne est déjà au courant. Et pour être sûre qu'elle soit contactée, elle nous appelle via l'infoline avant. On a beaucoup d'appels pour ça. Et puis nous, une fois qu'on reçoit le résultat, on lance l'enquête. Il peut y avoir un délai là-dedans. C'est pour ça que ça peut énerver certaines personnes. Et puis, on a aussi de plus en plus d'anniversaires, de soirées, de fêtes avec beaucoup de personnes, des soupers avec énormément de personnes à mettre en quarantaine. Et on n'a plus le dispositif pour appeler chaque personne. Et c'est vrai qu'actuellement, on demande à la personne index, donc la personne testée positive au Covid, de transmettre un message qu'on lui fournit à tous ses contacts proches pour qu'après, eux nous contactent pour avoir une attestation.
Et les personnes qui ont été averties par le centre de traçage ne sont pas abandonnées dans la nature. Le lendemain ou le surlendemain de l'annonce, elles sont contactées par des infirmiers pour prendre de leurs nouvelles.
Merci Sarah pour ces précisions. Et le conseiller fédéral Guy Parmelin est lui aussi en quarantaine, mais il n'est pas malade. Il n'a pas participé physiquement ce mercredi à la séance du Conseil fédéral. Le point sur l'état de santé du ministre de l'économie avec le vice-chancelier de la Confédération, André Simonazzi.
Le conseiller fédéral Guy Parmelin a participé à la séance du Conseil fédéral aujourd'hui par voie électronique. Une personne du secrétariat général avec laquelle il a été en contact à la fin de la semaine passée ayant été testée positive au coronavirus hier. Guy Parmelin, qui n'a pas de symptômes, a effectué un test hier également qui s'est révélé négatif. Il restera cependant en quarantaine ces prochains jours, conformément aux prescriptions et mesures de précaution usuelles.
À l'étranger aussi, les mesures se durcissent. Des fortes restrictions ont été instaurées aujourd'hui en Catalogne et en Irlande du Nord. Les bars et restaurants vont fermer dans les deux régions. Un tour de vis est aussi attendu en France. Le président Emmanuel Macron doit annoncer ce soir des nouvelles mesures contraignantes, voire des couvre-feux. Le chapeau de Napoléon n'accueillera plus la population. Dans un peu plus de deux semaines, le restaurant qui se dresse au-dessus de Fleurier depuis 1894 fermera ses portes. Le propriétaire Daniel Bendy cherchait à vendre son bien depuis plusieurs décennies. Le contrat avec son nouvel acquéreur, Kari Voutilainen, a finalement été signé aujourd'hui. Stéphanie Wenker, vous êtes en direct de Fleurier. Daniel Bendy avait acheté cet endroit emblématique sur un coup de cœur.
Et oui, Aude, Daniel Bendy a racheté ce lieu qu'on nommait encore le Chili Neuchâtelois en 1984. Convaincu de la beauté des lieux, il a alors effectué des travaux afin de créer le bâtiment que l'on connaît aujourd'hui comme le chapeau de Napoléon. En l'inaugurant en 1987, Daniel Bendy espérait pouvoir développer ce restaurant avec sa famille, ce qui n'a finalement pas été possible. Cela fait désormais près de 20 ans que le propriétaire tente de vendre le bâtiment avec l'objectif de perpétuer un restaurant et le point de vue sur le vallon. Mais selon Daniel Bendy, le mauvais état de la route qui mène au chapeau de Napoléon aurait dissuadé plusieurs acheteurs. Cette route devait en effet être entretenue par les propriétaires du site, surtout l'hiver, et les frais auraient pu être importants. C'est finalement un horloger du Val de Travers qui s'est présenté à sa porte cet été, Kari Voutilainen. L'artisan s'est dit intéressé par les lieux et a souhaité entreprendre les démarches pour racheter le bâtiment. Une transaction finalement aboutie et signée ce matin pour un prix qui restera inconnu du public. Une chose est sûre, Daniel Bendy ainsi que sa femme sont soulagés d'avoir pu vendre le bâtiment de plus à quelqu'un du Val de Travers. Même s'ils auraient aimé que la population continue à profiter du bâtiment, ils continueront tous les deux d'admirer le chapeau depuis la vallée.
Stéphanie, on connaît le beau point de vue sur le Val de Travers depuis le chapeau de Napoléon. Est-ce qu'il sera toujours accessible au public ?
Alors, rien n'est moins sûr pour le moment. De son côté, Daniel Bendy affirme que le lieu sera fermé aux visiteurs dès l'entrée du parking actuel. Seul le point de vue situé en dessus sur le belvédère serait encore accessible et uniquement à pied. Contacté cet après-midi, le conseiller communal Frédéric Méry nuance ce propos. Des discussions seraient en cours avec le repreneur Kari Voutilainen afin de conserver un accès pour quelques voitures, mais aussi pour assurer un point de vue sur le Val de Travers. La façon dont la route d'accès sera gérée est aussi en discussion, toujours selon Frédéric Méry. De son côté, Kari Voutilainen reste injoignable depuis ce matin, malgré nos appels. Et puis évidemment, ce qui est sûr, c'est que le restaurant servira ses derniers couverts le 1er novembre. Dans un peu plus de deux semaines, suivra alors une phase de déménagement avant l'arrivée de l'entreprise Voutilainen dès le 1er décembre.
Merci Stéphanie, vous étiez en direct de Fleurier. Faut-il de nouveau autoriser le néonicotinoïde dans les cultures de betteraves ? La question est étudiée à Berne. D'un côté, la Fédération des betteraviers revendique la réhabilitation de ce pesticide interdit. De l'autre, les opposants veulent empêcher de réhomologuer cette molécule nocive pour l'environnement et interdite depuis 2019, car la culture de la betterave sucrière est menacée par une maladie. Valérie Manasterski.
Il s'agit de la jaunisse virale. Elle baisse notamment le taux de saccharose du légume. Or, les agriculteurs sont payés au pourcentage de sucre. Une solution pour eux, donc, faire machine arrière et autoriser de nouveau ce pesticide durant 3 ans, histoire de trouver des solutions alternatives entre-temps. Une idée qui fâche les opposants, comme Alexandre Eby, apiculteur et enseignant-chercheur en biologie à l'Université de Neuchâtel. Le néonicotinoïde est non seulement dangereux pour les abeilles, mais également pour les vers de terre, les souris et même l'être humain. Selon l'enseignant-chercheur, ce retour en arrière serait un véritable naufrage pour l'environnement. On écoute Alexandre Eby.
En fait, c'est comme si on ouvrait une brèche monumentale et c'est comme si on réautorisait une molécule tout aussi toxique, voire même plus toxique que le DDT. Donc c'est tout simplement inacceptable. Et c'est aussi inacceptable parce qu'il y a eu 1200 articles scientifiques qui ont démontré la nocivité de ces molécules pour l'environnement. Et ignorer 1200 papiers, 1200 articles qui ont coûté beaucoup d'argent public, ça serait une sacrée insulte au monde scientifique qui a démontré la nocivité de ces molécules. Donc il ne faut absolument pas revenir en arrière. Ça aura des effets désastreux pour l'environnement.
Pour éviter donc ces effets désastreux sur l'environnement, il faut trouver des solutions alternatives. Mais y en a-t-il vraiment ? Nous avons posé la question à Pascal Olivier, responsable suisse romande de BioSuisse.
Il y a la recherche variétale, c'est-à-dire trouver des variétés de betteraves sucrières qui résistent mieux à ces virus transmis par ces pucerons. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Il y a aussi la possibilité d'intégrer à l'intérieur des champs de betteraves des sortes de bandes florales refuges pour les prédateurs des pucerons. Ça, c'est les deux pistes qui sont étudiées, mais encore, on est au balbutiement de ces recherches. Et puis sinon, dans les substances naturelles qui pourraient protéger la betterave, ça, il y a encore tout un travail à faire pour tester peut-être des molécules naturelles qui pourraient avoir un effet soit répulsif, soit protéger la betterave aussi de ces attaques.
Des solutions existent donc, mais elles sont soit de longue haleine, encore en phase de test ou tout simplement théoriques. Mais selon Pascal Olivier, se focaliser sur la réintroduction ou non de ce pesticide interdit n'est pas le cœur du problème. Selon lui, il s'agit surtout d'une opportunité politique pour mettre sur le devant de la scène la question du prix du sucre. Il doit être, selon le responsable de BioSuisse, rémunérateur. Ainsi, le prix du sucre devrait prendre en compte les variations naturelles et les rendements des agriculteurs.
Merci Valérie. Une pétition adressée au Conseil fédéral a été lancée il y a 3 jours pour s'opposer au retour des néonicotinoïdes. Elle est actuellement accessible sur la plateforme change.org. C'est maintenant officiel, Livia Loy reprend les rênes sur le dossier européen. Roberto Balzaretti laisse sa place pour mener les délicates négociations avec l'Union européenne sur le projet d'accord cadre. Le Conseil fédéral a nommé aujourd'hui cette diplomate qui a 30 ans de carrière au DFAE derrière elle et notamment 4 ans de mission en Iran. Elle était depuis 2018 ambassadrice en France. Livia Loy sait que le défi est énorme, 4 autres négociateurs s'y sont cassés les dents avant elle. Serait-elle inconsciente ou intrépide, Livia Loy?
Bon, j'espère, c'est plutôt courageuse qu'inconsciente. Non, je pense après 30 ans au DFAE, on ne peut pas être totalement inconsciente des défis qui existent. Mais bon, il faut aimer les défis, ça c'est sûr.
Le PLR et l'UDC saluent la nomination de la grisonne de 59 ans. De leur côté, le PS et l'Union syndicale suisse espèrent que cette nomination mènera à une meilleure prise en compte de leur position, notamment sur la protection des salaires.
À 18h12 sur RTN, place au sport.
Sport.
Le HCC sera renforcé par un joueur bien connu du public des MLS ce soir en Swiss League de hockey sur glace. Le club chaudefonnier reçoit Langenthal à 19h45. Il accueille Timothy Cast. Le jeune voix a été engagé en licence B pour une durée indéterminée. Il avait été sacré top scorer du club des MLS au terme de l'exercice régulier 2013-2014. Pour le reste, ce soir à domicile, le HCC doit confirmer un début de saison intéressant. Un vent de fraîcheur a soufflé sur le club chaudefonnier à l'intersaison. Les cadres ont été rajeunis et l'effectif de l'équipe comprend une majorité d'éléments en devenir. C'est par exemple le cas de Stéphane Charlin. Âgé de 20 ans, le portier genevois est venu au MLS pour acquérir du temps de jeu. Il a déjà joué 3 des 5 rencontres officielles de la saison. Il ne sait en concurrence avec Matteo Ritz et cela ne le dérange pas.
De la concurrence, il y en a toujours eu, même si ça soit au niveau junior ou au niveau professionnel. Mais c'est sûr que avec Matteo, on s'entend très bien. On a une concurrence très saine, donc ça nous pousse chaque jour à chercher le meilleur de soi.
Le HCC prend très peu de pénalités, du coup très peu de box-play pour l'instant. Une bonne défense, on peut le dire, au vu de ce début de championnat, ça met forcément en confiance le gardien.
Oui, c'est sûr, d'avoir une défense sur laquelle on peut compter, ça met en confiance et surtout on se sent mieux et on peut appliquer notre jeu plus facilement.
C'est une jeune équipe, la Chaux-de-Fonds. On était habitué à la Chaux-de-Fonds, peut-être jouer un peu plus les premiers rôles. Là, ça a été rajeuni. Pour vous, c'est une opportunité ou alors peut-être il y a quelques côtés négatifs?
Non, justement, je pense que c'est une opportunité. On l'a vu l'année passée avec Julien Servette qui a un peu créé la surprise avec une équipe jeune. Donc, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas avec la Chaux-de-Fonds. L'organisation elle a décidé de viser justement de miser un peu plus sur la jeunesse. Je trouve que c'est une très bonne chose et justement, je pense que c'est une bonne opportunité pour moi et pour les autres jeunes joueurs de faire leurs preuves.
La Chaux-de-Fonds Langenthal, c'est ce soir en direct dès 19h30 sur RTN. En cyclisme, le Français Arnaud Demare a remporté au sprint la 11e étape du Tour d'Italie. Il signe son 4e succès dans cette compétition et renforce ainsi son maillot du cyclamen du classement au point. Au classement général, le Portugais João Almeida reste en tête. Et Cristiano Ronaldo de retour en Italie. Le Portugais testé positif au Covid-19 mais asymptomatique a quitté son équipe nationale pour rejoindre Turin plus tôt dans l'après-midi. Il avait été placé en isolement. Il manque donc le match de ce soir contre la Suède en Ligue des Nations. Très belle soirée à toutes et à tous.
La météo avec dansmonquartier.ch, la plateforme qui dynamise le commerce local.
ciel dégagé encore pour quelques petites heures. Les nuages vont faire leur retour en cours de nuit prochaine. Le temps qui sera donc nuageux demain. Des averses éparses sont attendues en cours d'après-midi avec une limite des flocons qui va s'abaisser entre 1200 et 1400 mètres d'altitude. Pour les températures, maximum 9 degrés demain au pied du massif, 4 dans les montagnes neuchâteloises. Et la bise va souffler, ce qui va encore augmenter la sensation de fraîcheur. Pour vendredi, temps nuageux mais sec au programme.
La météo avec dansmonquartier.ch, la plateforme qui dynamise le commerce local.